des chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 pendant une heure, avec aujourd'hui notre invité Michel Cornebeuf. Michel, bonjour.
Bonjour Francis.
Comment allez-vous ?
Ben, très bien.
Pas trop compliqué pour arriver jusqu'à nous avec ce temps d'abord et puis le marché ?
Non, ben, le marché de Chauvigny c'est quand même une belle identité, c'est un lieu magique.
Oui, tout à fait, oui, un très beau marché en plus qui a une certaine renommée.
J'ai toujours envie de venir à Chauvigny, j'avais raconté d'ailleurs dans un de mes livres... cette légende, sur une seule terre, mm-hmm. il y avait 5 châteaux.
Oui, tout à fait, oui, sur un seul promontoire, c'est vrai que c'est ça, et puis tout ce qui est autour, hein, que ce soit la Saint-Pierre-des-Églises ou autre, hein, il y a vraiment une histoire magnifique. Vous êtes arrivé par la rue Feydeau, hein, qui est une rue historique, qui mène de l'ancien pont médiéval jusqu'à la cité du même nom. Voilà. Donc je vous remercie d'être parmi nous. Merci, puisque comme vous le disiez, c'est une ville que vous connaissez bien par son patrimoine, et puis par les connaissances que vous pouvez y avoir, hein, au niveau de Luc Turlan, je crois, et Olivier Pacro, avec qui vous avez travaillé.
Oui, alors Luc, bien sûr, c'est un, entre guillemets, un collègue, puisque j'écris aussi pour la jeunesse, mais Olivier Pacroux, j'ai réalisé 4 livres avec lui, avec beaucoup de plaisir. 2 livres dans une collection qu'on avait commencé, là, décrit dans la cité, et les donjons, la terre des donjons. Mm-hmm. Et puis, il y a eu le colporteur d'histoire, et surtout, notre grand succès, ça a été... Les légendes de la Vienne.
Les légendes de la Vienne, tout à fait, oui.
Et j'aime beaucoup le travail d'Olivier, méticuleux, raffiné, et cette complicité. Voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un cinquième.
Peut-être, oui.
On en a parlé déjà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup cette complicité entre le texte poétique et les illustrations d'Olivier.
Ben, j'avoue que moi, je l'ai redécouvert, hein, par rapport justement à la légende de la Vienne, que j'avais dans ma bibliothèque depuis un moment. Et c'est un artiste, je ne pensais pas en fait qu'il était de Chauvigny, hein, vous l'avez appris. Et à partir de là, donc, je vais essayer de le contacter, hein, pour une émission avec Luc Turlan. Je pense que les mettre face à face, tous les deux, ça peut être quelque chose de magnifique. Hein.
Pourquoi pas?
Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors, tout le monde connaît Michel Cornebeuf. Hein, Michel Cornebeuf, vous êtes écrivain, acteur, chanteur, tout un tas d'activités dans ce domaine. Vous êtes aussi comédien. C'est au moins ce que nous dit votre fiche Wikipédia. Alors, on va essayer de sortir de la fiche Wikipédia pour s'intéresser à votre parcours réel. Et puis, vous nous intéressez aussi à l'homme, hein, l'homme que vous êtes, l'homme que vous avez été, et ce qui vous a poussé à devenir ce que vous êtes, l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, merci. Je voudrais dans un premier temps parler de votre expérience. Hein. Vous avez une première expérience dans l'enseignement, me semble-t-il.
Oui, j'étais d'une famille modeste et pour pouvoir continuer mes études, j'ai passé le concours de l'école normale.
D'accord.
Et donc j'ai été reçu, j'étais très heureux parce que j'avais eu un instituteur en CM2 qui m'avait vraiment donné envie de faire le métier. Mmh. Et j'étais partagé entre deux passions, c'est-à-dire l'enseignement... et la création. Parce que dès l'âge de 14 ans, je m'occupais de mes frères et sœurs et je leur créais un spectacle par jour.
D'accord.
Donc j'étais attiré vraiment par le spectacle. Et puis j'ai pratiqué quelques années d'expérience et avec l'inspecteur Jean Dagneau, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser des projets culturels. C'est-à-dire j'ai travaillé pendant un certain temps à la réalisation de projets qui touchaient la culture. Donc de réalisation de diaporama, réalisation de scénettes de théâtre, etc. Et puis j'ai rencontré Fabio Pacchioni, lors d'un atelier d'écriture au collège de Vivonne. Et Fabio Pacchioni était un grand maître du théâtre, d'improvisation dirigée. Et il m'a formé en quelques jours. Et la base de son travail, c'est « avec rien, tu peux tout faire ». C'est-à-dire que c'est simplement cheminer vers l'être, être.
Un peu de talent tout de même, vous dites avec rien,
on peut tout faire. Du talent, mais du travail.
Oui, aussi, voilà.
Mais on peut tout faire au théâtre, mm-hmm. sans costume, sans décor, parce que l'essentiel, c'est l'être. C'est être dans le personnage, c'est être dans son attention, dans sa concentration. Et à partir de ce cheminement-là, j'ai quitté l'éducation nationale pour me consacrer à la création. Et j'ai travaillé notamment beaucoup, et je travaille toujours d'ailleurs au CPA Latu, par exemple, où j'anime des ateliers avec des écoles de toute la France, ateliers d'écriture, ateliers théâtre. Et les ateliers théâtre, ce sont des ateliers très particuliers, puisqu'on démarre avec le tableau blanc, et on finit avec un spectacle qui va pouvoir être joué. Et j'en ai réalisé comme ça des centaines.
D'accord. Je vois mon fils qui fait du théâtre depuis maintenant 3 ans. C'est vrai qu'il a une certaine expérience, mais c'est vrai que si vous me dites qu'avec un stage, déjà, on arrive à faire pas mal, on peut se poser la question, savoir pourquoi certains comme moi, d'ailleurs, ne l'ont jamais fait.
Ça peut être intéressant. C'est un cheminement aussi. Hein. Moi, je vois dans les classes que j'ai la chance d'animer, on a souvent des enfants timides ou turbulents.
C'est ça, tout à fait.
Et en quelques jours, le théâtre leur apporte beaucoup.
Ça permet de canaliser justement les émotions.
Je travaille beaucoup sur le théâtre demande une attention à soi-même et une attention à l'autre.
Voilà. D'accord. Au niveau de l'expérience, donc on a dit, vous venez de l'enseignement à l'origine. Je me suis intéressé au nom de Cordebœuf. C'est un nom qui n'est pas forcément courant. D'où vient l'origine du nom ?
D'après mes recherches, il semblerait que ce soit un nom qui vient du Massif Central.
Massif Central. J'avais deux possibilités. En fait, c'est vrai, le Massif Central du côté de l'Allier, hein, avec un hameau du côté de l'Allier dans le 03. Donc, et puis j'avais une autre explication, c'était en Charente. On avait aussi un hameau de Cordebœuf en Charente.
Voilà. Alors Cordebœuf, ça voulait dire fort comme un bœuf. Voilà. Ça voulait dire ça à l'origine. Bon, c'est vrai que c'est un nom. Je me rappellerai toujours quand j'ai signé chez Flammarion, le directeur m'a dit gardez votre nom, c'est un excellent pseudonyme.
Oui, tout à fait. Pour quelqu'un
Mais je
qui
suis
comme
très
vous.
Fier de mon nom, comme je suis fier de mon père, quoi. Donc c'est important pour moi.
Bien sûr. Un joli nom qui, en plus, va très bien avec le personnage, hein, puisque vous intéressez à l'histoire, au patrimoine, à la randonnée aussi, on verra tout à l'heure, hein, puisque vous êtes quelqu'un qui marche énormément. Voilà. Je vais vous proposer une première pause musicale. Alors, j'ai cherché un peu au niveau des musiques sur le Poitou, trouver quelque chose qui pourrait nous intéresser. J'avoue, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé Thomas Fersen. Thomas Fersen qui nous parle de Diane de Poitiers. On se retrouve tout de suite après.
Et j'adore.
Que fait donc en ce lieu, parmi ces messieurs, cette blonde aux bras nus, si nue qu'elle éternue, dans ses doigts, elle se mouche, et pour se rincer la bouche, elle commande un cognac, puis un autre cognac, je lui dis à l'oreille, t'es belle comme Diane de Poitiers. Veux-tu prendre la moitié de mon lit si t'as sommeil? Elle me répond, je cite, il faut pas que tu t'excites, ce n'est pas ce que tu penses, je suis resté vieille France. À vous aussi. C'est d'accord, je t'accueille, moi je dors dans le fauteuil, en tout bien, tout honneur, comme un frère et une sœur, toi le lit, moi la banquette, à la bonne franquette, c'est d'accord pour ce soir, moi je dors dans la baignoire, certes je ne suis pas un saint, et quand la lumière s'éteint, je n'ai pas toujours dit non, mais je m'en remets à Platon, pour nous deux c'est plus sage, vu la différence d'âge, non ce soir, pas de folie. Chacun dans son lit soit, je ne suis pas un moine, je dissimule mon patrimoine dans ce bar un peu glauque. Ma voix est devenue ronque à la suite des abus, mais ce soir j'ai rien vu. Non, ce soir je suis strict, le devoir me le dicte, j'ai rien d'un ecclésiastique, ma conscience est élastique. Et si je fais mon examen, je suis pas l'endroit chemin, non, je ne suis pas très vieux. Quand c'est l'heure d'aller au pieu, je fais vraiment ma prière, je préfère une petite. Pas un prêtre, ce serait mal me connaître. Et les soirs de pleine lune, j'en ai détourné plus d'une. Mais faut pas rester dehors avec tous ces délinquants. Sois tranquille, moi je dors sur le lit de camp. Soit je suis pas un chérubin, faudrait que je prenne un bain. Car je rase sur mes joues cette barbe à cajou. Et mon linge n'est pas net. Enfin, pour être honnête, ce matin dans le bus, j'ai attrapé une puce. Les nuits d'hiver sont longues, dans ma baignoire oblongue, elles sont longues et frisquettes, surtout sur la banquette, le divan du ciel. les jours, le canapé trop lourd, le fauteuil Louis-Philippe, à cheval sur les principes.
C'était donc Thomas Fersen avec Diane de Poitiers. Nous sommes toujours sur REC 103.7 avec notre invité Michel Cordebeuf. Et puis, j'ai au téléphone. Donc, Andrea Estrada, qui est au téléphone actuellement, qui connaît bien Michel Cordebeuf, pour avoir participé avec lui des spectacles, notamment du côté de Lusignan.
Oui, c'est ça, les spectacles sur Mélusine.
Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Michel vous écoute, hein, il est là lui aussi, il peut parler lui aussi.
Bonjour Michel.
Donc voilà, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle?
Oui, bien sûr. Il y a 2 ans, l'année 2002, et une élève à moi de Poitiers, et Jeanne, me dit, j'ai un très bon ami qui est directeur de théâtre, acteur, et qui organise avec la mairie de Lusignan un spectacle sur Mélusine. Donc elle cherche une danseuse et je te recommandais. Donc, Michel m'a appelé, on s'est rencontrés, on a fait connaissance, et c'est comme ça que j'ai participé dans ces spectacles sur l'histoire de Mélusine. Mmh. Et Michel voulait que je m'occupe de toute la partie des danses. C'était un spectacle un peu de théâtre musical avec les chansons que Michel avait déjà fait sur l'histoire de Mélusine. Mmh. Donc moi je fais de chorégraphie groupale pour tous les bénévoles des Lusignans qui participaient au spectacle. Et aussi j'ai eu un personnage, dans les premiers spectacles, l'année 2022, j'ai eu un personnage d'une sorcière. D'accord. Et Éléonore, la sorcière, c'était surtout des danses, j'ai pas tout parlé, j'avais pas de dialogue.
La sorcière qui est un rôle de composition, hein, je dis pour nos auditeurs tout de même, hein, un très beau rôle de composition, vous n'êtes pas comme ça dans la vie. Il est comment Michel dans la vie justement? Il est comment Michel dans la vie? C'est quelqu'un de charmant, quelqu'un de avec les artistes aussi. Hein, c'est quelqu'un qui est rigoureux, je suppose, mais assez facile à aborder.
Oui, Michel est vraiment très sympa, très gentil, et une chose qui est vraiment très cool de Michel. Et c'est pas que moi qui l'ai dit, c'est tout. En fait, toutes les personnes qui ont participé du spectacle, c'est que Michel, il est une personne qui fait confiance à tout le monde. Il nous dit, il nous avait dit, tu fais deux chorégraphies, je te laisse à toi. Et il m'a donné juste les consignes à respecter. Et après, il m'a fait complètement confiance. Et c'était vraiment, c'était vraiment sympa parce que j'ai pu apporter un peu les choses que j'avais un peu en tête. Mmh. Et donc, Michel, oui, il est très, très sympa. C'est très, très...
Très agréable de travailler.
Très agréable de travailler avec lui. Oui.
Andrea, vous enseignez la danse orientale. Pourtant, votre accent nous laisse entendre que vous êtes originaire d'un autre pays.
Oui.
D'où êtes-vous originaire?
C'est ça. Je suis péruvienne.
Le Pérou, tout à fait. Un magnifique pays. J'avoue que c'est un des pays, un des deux pays que j'aurais voulu visiter. Le premier, je l'ai fait, c'est le Kenya. Et le deuxième, mon rêve, c'est vraiment le Pérou. Alors, avec les clichés, forcément.
Vous devez y aller.
Alors, j'ai forcément mes clichés à moi. Hein, c'est la flûte de Pan et les lamas. Mais voilà, mais j'ai ça de mes souvenirs d'enfance. Vous travaillez donc pas mal sur Poitiers et sur Chauvigny. Vous avez un groupe ou une école de danse?
Oui, c'est ça. En fait, je suis prof de danse orientale. Mmh. Et je travaille avec une association où je suis partie, l'association Phare Orientale. Avec cette association, c'est une toute petite association, mais on essaie de développer les cours de danse orientale, sur Poitiers et sur Chauvigny.
Oui, sur Chauvigny. Vous faites d'ailleurs des spectacles tous les ans. Alors l'année dernière, c'était du côté de Chasse-Neuil ou...
Oui, c'est ça. En fait, à la fin d'année, fin juin, on fait un spectacle un gala de fin d'année. Les deux dernières années, c'était justement à la salle de la Cantine, à Chasse-Neuil, et cette année sera à Beaulieu.
À Beaulieu,
cette fois, sera à Poitiers, à Beaulieu. Oui, c'est ça.
Alors, vous
Le 29 juin.
Vous avez dansé à travers le monde pour de nombreux événements, que ce soit au Pérou, en Inde, au Costa Rica, au Brésil, en France maintenant en solo ou en groupe. Vous avez fait aussi de la danse polynésienne. Qu'est-ce qui vous a amené à venir en France, à quitter le Pérou et à venir en France ?
Oui, alors, mon mari, l'amour. Et, oui, l'amour. Oui, j'ai connu mon mari est français. Mm-hmm. Il est Poitevin, ouais, et ses parents chauvinois. Et donc, il a fait un tour du monde l'année 2018. Et quand il est passé pour Pérou, on s'est rencontrés. Mmh. Et après, bon, il a retourné. On a vécu là-bas quelques mois. Et après, elle m'a dit, bon, elle m'a convaincu de venir en France. Donc, je suis arrivée l'année 2018. Mmh. C'est pour ça mon accent
oui,
hispanique.
Voilà. Bah, gardez-le. Non, mais gardez-le. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là.
De toute façon, je ne peux pas le changer. Exactement, j'avoue que c'est fait exprès.
Est-ce qu'une autre collaboration est prévue? Alors, je m'interroge, enfin, je parle aussi à Michel par rapport à ça. Est-ce qu'une autre collaboration est prévue entre vous sur Lusignan ou ailleurs?
Non, quel est le spectacle des Lusignan, ouais.
Alors, pour l'instant, c'est sur ce spectacle. Ben, merci, Andrea, pour ce que tu as dit. Ce qui est important pour moi, effectivement, c'est la confiance. J'aime accorder ma confiance parce qu'elle permet tous les possibles. Si elle est trahie, évidemment, on perd, mais c'est très rare. Mais ce que je veux dire, c'est que la confiance, pour moi, c'est une volonté essentielle de partager avec ceux qui travaillent avec moi. Et c'est vrai que pour ce qui concerne la partie danse de Lusignan, c'était totalement confié, hein, et la résonance a été formidable. Les gens sont ravis. Moi, j'étais ravi parce que effectivement, ça donnait une énergie complémentaire au chant et à la figuration. Voilà. Alors après, je sais pas, Lusignan, pour l'instant, on est en attente, là. J'ai une réunion samedi prochain.
D'accord.
Et effectivement, selon les décisions de la mairie, je reprendrai, bien sûr, des compagnons de route. Je pense aussi à Jean-Marc Périssa, à Zito Barrette, qui sont des musiciens qui attendent aussi, qui seraient ravis de retravailler avec moi. Moi, je suis ravi d'avoir toute cette équipe parce que tout le monde donne le meilleur. Et ça, c'est important pour moi. Mais j'aime travailler dans la confiance, c'est une clé de voûte pour moi essentielle.
D'accord. Andrea, un dernier petit mot peut-être pour les personnes qui seraient intéressées de vous rejoindre au niveau de l'association pour la danse. Un moyen de vous contacter? Alors, il y a un site internet, c'est pharaoriental.com.
Oui, c'est ça, pharaoriental.com. Sinon, sur Facebook, Instagram, pharaoriental. Et sinon, mon téléphone, 06 69 87 62 00, aussi, si quelqu'un est intéressé pour prendre des cours à Poitiers, au Chauvigny, enfants et adultes.
Tout à fait, oui. Alors, Farah, le prénom signifie en arabe joie, gaieté. Il y a une relation, une notion avec le mariage. D'où vous est venue l'idée de cette association? Et puis du nom de cette association?
Oui, en fait, c'est une histoire un peu rigolote. C'est il y a très 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 longtemps quand j'avais commencé à apprendre la danse orientale au Pérou, encore. Et dans un des premiers événements où j'ai dansé avec encore ma prof de l'époque et mes anciennes collègues, ma prof un peu avait choisi un peu un nom pour chacune. Elle nous avait dit en fait de choisir un nom un peu oriental pour chacune. Et moi j'avais vu cette nom Farah et que c'était une personnage, une princesse d'un film sur Sinbad le marin.
D'accord.
C'est le film numéro 3, je sais pas, ce sont des films très très anciens, des années 60. et j'avais bien aimé, et j'avais dit, j'ai choisi cette prénom. Et après, je me suis dit, ce sera sympa d'utiliser pour le nom de l'association.
Eh bien, écoutez, Andrea, je vous remercie. On rappelle l'adresse de votre site internet, pharaoriental.com, pharah oriental.com. Alors, si j'osais, je vous demanderais de prendre soin un peu de vos danseuses, puisque j'en ai une que je côtoie depuis maintenant 25 ans.
Oui.
Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à bientôt.
Merci à toi.
Merci
à bientôt.
À vous.
Merci.
Oui, merci beaucoup à vous deux. Et bonne continuation.
Bonne continuation.
Et avec
aussi.
Plaisir. Avec plaisir d'être avec vous.
À bientôt.
Je vous remercie.
À bientôt, Michel.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. À propos de mariage, Michel Cordebeuf, vous avez écrit et interprété la petite fiancée de la Grande Guerre en 2018, me semble-t-il.
Oui.
Juste pour faire transition avec le spectacle, qu'est-ce qui vous amène, quelle passion vous a amené à faire des spectacles de ce genre?
Alors, souvent un spectacle a une clé. Oui. La petite fiancée de la Grande Guerre, la clé, ça a été le fait d'apprendre que mon arrière-grand-père est mort le 11 novembre 1918. Et j'ai eu envie de faire un spectacle sur scène où j'évoquais l'amour entre un homme dans les tranchées et sa fiancée à l'arrière, sans que l'on voie la fiancée. C'est assez étonnant comme spectacle parce que on rend visible la personne absente et à travers les chansons, à travers les textes, et en cheminant complètement sur ce chemin. On a réussi un spectacle qui a touché beaucoup de monde. J'étais assez ému d'ailleurs des retours de ce spectacle. Oui.
La passion, hein, que ce soit du spectacle, du théâtre ou de la poésie, même vous vient de l'enfance, je crois. Hein. J'ai cru lire quelque part que déjà au collège, vous intéressiez à la poésie.
Oui, j'en ai parlé dans mon livre sur le lycée Henri IV, j'en parlais récemment. En 2008, j'ai sorti pour les 400 ans du lycée Henri IV l'histoire, enfin en collectif, et je racontais qu'effectivement pendant les cours de maths et de physique chimie qui n'étaient pas ma tasse de thé, j'écrivais des poèmes et j'écrivais beaucoup. Et j'ai commencé à écrire donc dans cet établissement historique. Je suis retourné récemment pour voir les travaux. J'étais très ému parce que c'est là que j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai que moi les récrés, je les passais plus sur mon cahier. J'ai écrit des centaines de textes qui sont d'ailleurs dans une malle que j'appelle les brouillons de ma vie.
D'accord, oui. Que vous lisez de temps en temps.
Qui sont pas publiés. Qui seront pas publiés. C'est un chemin d'apprentissage, en fait.
Hein. Tout à fait, oui. Et au niveau du théâtre, j'ai cru comprendre, pareil, que vous aviez une expérience au niveau du régisseur du théâtre de Poitiers, qui, alors je sais pas à quel âge, vous pouviez avoir.
Oui, j'ai eu la chance, oui, de connaître à l'époque Jean-Pierre. Et Jean-Pierre était, je travaillais à Radio Pulsar, Radio Forum, pardon. Je faisais des interviews et il me faisait rentrer. C'est comme ça que j'ai pu assister au concert de Léo Ferré, à 3 mètres de Léo, derrière le rideau rouge, ou au concert de Nini Escudero, d'Henri Tachant. Et j'allais ensuite au cul de paille passer la soirée avec eux. J'ai enregistré Nini Escudero pendant 2 heures sur des cassettes. J'avais la chance, oui, de côtoyer ce monde de la chanson m'a toujours plu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je chante, je continue à chanter, on va en parler tout à l'heure, des nouveaux spectacles, mais la chanson pour moi a toujours été une respiration. J'ai toujours beaucoup écouté la chanson française, passionné de chansons. J'ai fait plusieurs spectacles, dont Prétexte Brel, par exemple. Prétexte Brel était un spectacle sur Jacques Brel, sans chanter aucune chanson de Jacques Brel. C'était une création. J'ai eu la chance de rencontrer France Brel, Juliette Gréco à ce propos. Et j'ai toujours été attiré par la chanson française, mais j'écoute aussi d'autres genres de musique. En fait, j'écoute beaucoup de musique, je regarde peu la télé. Par contre, j'aime le cinéma. Voilà.
Le régisseur du théâtre, c'était à quelle époque, dans les années 80-90?
Oui, c'est ça, oui, j'étais tout jeune, et puis, je sais pas, il m'avait pris d'amitié, et il me faisait rentrer, ce qu'on appelle par les coulisses, parce que la salle, le théâtre était plein, et moi j'étais derrière le rideau rouge, je voyais Léo jouer, respirer, à 3 mètres de moi.
Écoutez, je ne sais pas si j'avais le même régisseur, mais c'est vrai qu'enfant, moi je devais avoir 11-12 ans, à peu près dans les années 80 aussi, et j'ai aussi un régisseur qui me faisait rentrer dans le théâtre de Poitiers. J'ai pu voir ainsi Serge Reggiani, j'ai pu voir Suzanne Flon,
oui.
J'ai pu voir le premier spectacle de Napoléon, de Serge Lama, et j'étais moi à l'étage, par contre, je n'étais pas dans la salle, j'étais plutôt sur l'étage. Voilà. Donc voilà, c'est une expérience aussi qui m'a...
C'est sans doute le même, mais je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a fait vivre des moments forts, quoi. Très forts.
Des belles expériences, en tout cas.
Nicolas Perrac, enfin plein. J'ai rencontré, puis j'avais la chance de les rencontrer, de dîner avec eux. Oui. Donc, au cul de paille, il y a eu un livre qui est sorti, donc, sur le cul de paille, d'ailleurs, qui est en vente à l'auberge, et dans lequel je raconte ces souvenirs-là.
Vous avez une expérience, donc, de théâtre, on l'a dit, dans la chanson, une expérience aussi de cinéma. Vous avez participé au moins à un court-métrage.
Oui, alors, j'ai commencé, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai commencé par le cinéma. J'avais commencé par faire des reportages, genre Connaissance du Monde. Donc, j'avais fait la guerre en Irlande, New York, l'île de la Réunion, la Laponie. Et avec cette expérience, ça a duré quelques années, je présentais mes spectacles audiovisuels avec mes collègues. On présentait des spectacles sur trois écrans, avec film au milieu, diaporama, multivision, etc. Voilà, ça a duré un petit temps, puis j'ai été rattrapé ensuite par la chanson. Donc j'ai chanté pendant longtemps avec Jean-Luc Raffou, on a fait des spectacles un peu partout. Et puis après j'ai pris un envol différent avec d'autres musiciens. Puis là je reviens à la chanson, mon rêve c'est maintenant d'enregistrer un album de mes 20 plus belles chansons. Donc avec des amis, inviter des amis musiciens comme qui ont vraiment enrichi ma route. Et bon ça va se faire. Avec la compagnie du temps imaginaire, là on va regarder ça. C'est ma compagnie de spectacle actuelle, présidée par Michel Caillé. Donc on a cette envie là. Mais la chanson est quelque chose qui m'appelle de plus en plus parce que c'est un court métrage. Une chanson c'est 3 minutes. On installe les gens dans un décor, on les emmène et puis on applaudit et on passe à une autre.
Tout à fait, ces instants de voilà. Vie.
Alors, en ce qui concerne le cinéma, effectivement, j'ai eu la chance de jouer dans le court métrage de Thierry Beauvignier, un rôle muet, mais qui m'a beaucoup apporté avec Yannick Jolin. Ça a été un moment extraordinaire. Je joue l'assistant du juge. Et j'ai joué le laborantin dans un long métrage, par contre, qui est sorti sur les écrans, Mathilde, par les éditions Auger. Olivier Goujon, voilà. Et puis je voudrais refaire quelques petits rôles au cinéma. Et
c'est pas étonnant. C'est...
Pour tout vous dire, j'ai un projet de scénario. Je prends mon temps. J'ai un projet de scénario d'une comédie.
D'accord. Bon, bah, écoutez...
Parce que je pense que je regarde beaucoup de comédies en ce moment et alors on va faire le pont, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens dans mes spectateurs fidèles et j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent avec fidélité, amitié, ça me touche beaucoup. On me dit Michel, fais-nous un spectacle humoristique parce que on a envie de rire et tout. Et finalement, ben j'ai créé avec le théâtre de la Reine Blanche de Loudun en résidence Petite Rumeur.
D'accord.
L'histoire d'un homme qui aime la chanson, qui écrit des chansons. Qui arrive dans le bar de Trouperdu sur Errance, qui s'installe au bar, tranquille, et il veut finir ses chansons, il veut finir son spectacle, et il y a un haut-parleur qui se met, entre guillemets, à l'enquiquiner, vraiment, et s'ensuit toute une énergie autour du théâtre, de la chanson, et de l'histoire. C'est-à-dire que je raconte un peu la vie du village, je raconte un peu aussi, on parle beaucoup aussi de poésie, parce qu'il faut en parler, mais c'est surtout basé sur l'humour, et j'avoue que j'y ai pris goût, parce que j'ai joué donc au Théâtre de la Reine Blanche, j'ai joué au Myosotis à Mignet-le-Beauvoir, j'ai vraiment pris goût à ce spectacle.
Oui, on le sent.
Je suis seul en scène, mais voilà, ça s'est réalisé assez rapidement, parce que ce spectacle était en moi.
Seul en scène, il n'y a pas d'âge pour devenir seul en scène. On le voit avec Michel Drucker, hein, qui fait un one-man show maintenant depuis quelques années. Sans être indiscret, vous avez quel âge, Michel Cordebeuf ?
67.
67, vous avez encore tout l'avenir pour développer un peu votre art. On parlait de poésie, on parlait d'enfance hein, depuis tout à l'heure. On va faire une petite pause musicale, ce sera la deuxième et dernière en fait, de cette émission, avec un chanteur, hein, Hubert-Félix Thieffen, qui nous parle de la Ruelle des Morts. Et on vient tout de suite après.
Oh, bah, oui.
Nos bidons en fer blanc descendaient chercher le lait à la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
sans le savoir, on reprenait Mercel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une Guinevere Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous écoutaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle. Les automnes quand sonnait l'heure de nos folies, j'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels et qu'ils en fêtent des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle.
Sur REC 103.7, entre 11h et midi, sur les chemins de traverse, en compagnie de Michel Cordebeuf, pour parler ensemble de son parcours. Et nous avons d'ailleurs au téléphone, à propos de parcours, à propos de balades, de randonnées, nous avons au téléphone le président de l'Amicale des cyclotouristes de la Vienne. Gilbert Baudet, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, rassurez-moi, vu le temps, vous n'êtes pas en vélo, là, actuellement ?
Non, on n'est pas en vélo, pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, vous êtes à une réunion, je crois que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en réunion. Une réunion pour la randonnée qui se tiendra la semaine prochaine ?
Alors, non, c'est une réunion de formation pour les clubs cyclotouristes de la Vienne.
D'accord.
Une formation sécurité, c'est important.
Très, très important, tout à fait, oui. On parlait de randonnée, et la semaine prochaine, votre club organise la 20e randonnée d'hiver à Saint-Julien-la.
Oui, vous nous en dire tout un peu à fait. Plus Oui, donc 20e randonnée d'hiver, 3 parcours, 8, 11 et 15 kilomètres, sans difficulté particulière, en espérant que les terrains ne seront pas trop gras.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, donc l'accueil est à la salle polyvalente de Saint-Julien-à-l'Art.
Située rue de Beaulieu, hein, c'est celle qui est parallèle à la nationale.
Voilà, c'est ça, rue de Beaulieu.
Le rendez-vous, c'est échelonné, je crois, hein, de 7h30 à
9h30. Voilà, de 7h30, voilà, accueil à partir de 7h30 à 9h30.
D'accord. Au niveau
du café parcours, à l'accueil, oui.
Au niveau du parcours, vous pouvez nous en dire un peu plus, vers où nous emmenez-vous cette année ?
Alors là, on va aller sur Jardre.
Oui.
Jardre, ensuite...
Le Bois d'Oussé, peut-être pas.
Coup David, oui, le grand parcours va s'approcher du Bois d'Oussé pour revenir ensuite vers le Vieil Availle et Saint-Julien-à-l'Art.
Voilà, donc 3 parcours de 8, 11 et 15 kilomètres. Une participation de 4 euros, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
4 euros, oui, tout à fait, oui.
Un ravitaillement prévu en cours de route ?
Ravitaillement sur le parcours, oui, près d'une ferme au lieu dit Jarige.
D'accord, il y a un vin chaud peut-être à l'arrivée ou
Voilà, sandwich, vin chaud, tout à fait, oui.
Vous êtes combien au niveau de l'Amicale, du cyclotourisme de la Vienne, combien de membres ?
Alors, dans l'Amicale, nous sommes 42 licenciés et une dizaine d'adhérents.
D'accord.
Et là, pour la marche, on est à peu près 32. Il nous faut 32 bénévoles pour une bonne organisation.
Vous avez une idée, à peu près une attente, en tout cas, au niveau du nombre de randonneurs. L'année dernière, vous étiez à combien de personnes ?
Alors, l'année dernière, 632.
Oui, c'est magnifique. Hein, c'est...
Voilà, donc, bon, on avait été un peu dépassé puisqu'on avait prévu 500 et ça a été un petit peu chaud pour le ravitaillement puisqu'on essaie de satisfaire tout le monde. C'est et après, c'est la météo qui va définir tout ça.
Exactement. C'est vrai qu'on le sent depuis maintenant quelques années, hein, qu'il y a un véritable engouement, hein, au niveau de la randonnée dans la ville.
Oui, tout à fait. Oui, de plus en plus.
De plus en plus. Hein. D'ailleurs, je le dis, hein, pour nos auditeurs, hein, qui voudraient se retrouver un peu les dates des différentes randonnées, on a rando86.fr, hein, qui, toutes les semaines, met à jour son agenda de randonnée dans la Vienne, où on peut aussi déposer des annonces. Et puis, un groupe Facebook, rando86 aussi, avec ses 7000 membres, hein, qui sont prêts à vous accueillir. Il n'y a pas de souci. On rappelle peut-être, donc, c'est votre randonnée, c'est la semaine prochaine, hein, dimanche 18 février.
Dimanche 18 février, oui, tout à fait.
Avec trois parcours de 8, 11 et 15 kilomètres.
Voilà, donc bien penser à porter son gobelet réutilisable.
D'accord. Un numéro de téléphone peut-être pour celles et ceux qui voudraient des renseignements?
Oui, alors 06 19 ouais. 84 08 63.
Voilà, 06 19 84 08 63. Bien, écoutez, Gilbert Baudet, je vous remercie. Je vous laisse continuer votre réunion. Et puis, je vous souhaite une bonne réussite, hein, pour votre randonnée.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. À très bientôt.
Bonne journée. À très bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir. À propos de randonnée, Michel Cordebeuf, il vous arrive d'en faire assez régulièrement, je crois. Hein.
Oui.
Que ce soit souvent avec des associations, ça peut arriver plus.
Par rapport à des. En général, je marche beaucoup par rapport aussi à des projets. Par exemple, mes deux derniers livres sur Poitiers Label d'un siècle à l'autre avec Gérard Sima chez Michel Fontaine Éditions, où j'ai fait un parallèle entre deux siècles. Avec les photos d'aujourd'hui, et puis Poitiers, pour l'amour de Poitiers, aux éditions Magellan, qui est une diffusion nationale. Je marche. Alors, c'est pas toujours facile de marcher avec moi parce que je m'arrête beaucoup. Je suis également passionné par la photo. Alors, quand je dis passionné par la photo, c'est la photo de nature. Et je marche. Si je marche, je m'arrête pour faire des photos. Mais voilà, vous avez le livre là, effectivement, Rendez-vous à Poitiers. Qui est un livre entièrement fait à pied. Hein, dans mes trois livres sur Poitiers, donc c'était également chez Michel Fontaine éditeur, mes trois livres sur Poitiers sont faits pratiquement à pied.
On le voit, d'ailleurs, c'est un magnifique livre que je conseille à nos auditeurs, avec du détail. Je comprends que vous arrêtiez aussi souvent, parce que vous allez vraiment dans le détail au niveau de la photo. Hein.
Oui.
On a des sculptures, on a des photos magnifiques, ouais, de Notre-Dame ou de Saint-Radegonde.
Alors moi, je suis pas un grand technicien, mais pour moi, la photo, c'est la lumière. C'est-à-dire que la lumière m'invite et je prends la photo. Il n'y a pas de trucage, c'est simplement la photo naturelle telle que je la vois. Et si je dois cadrer parce qu'il y a un poteau électrique, c'est moi qui cadre, c'est moi qui bouge, c'est moi qui dois prendre l'image.
Il n'y a pas de retouche.
Pas de retouche, voilà. C'est très important pour moi, c'est la photo telle que l'on peut la voir.
Oui, c'est magnifique, c'est le genre de photo spontanée, en fait,
oui.
Celle que l'on conserve véritablement plutôt que d'avoir des choses qui sont...
Voilà, mais j'ai des milliers d'images, j'ai un livre aussi qui est en attente, là, le cadeau du présent, avec des photos de nature. Voilà, j'aime la nature et j'aime la photo, voilà.
Alors vous disiez, vous avez écrit un livre, hein, pour l'amour de Poitiers aux éditions Magellan, qui est toujours disponible, hein,
oui,
qui est sorti au mois de juillet l'année dernière,
oui,
semble-t-il. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une rencontre avec un enfant de 12 ans, Alexandre, qui est un enfant, un de vos proches, je crois. Hein,
oui, alors si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les éditions Magellan confient un projet pour l'amour d'eux, donc c'est une collection nationale, confient un projet, en l'occurrence Poitiers, et le scénario est libre. Et j'ai eu l'idée, effectivement, de faire découvrir la ville à un enfant de 12 ans, Alexandre, qui est le fils d'un ami très proche. Et Alexandre m'accompagne et m'a permis de présenter Poitiers dans toutes ses grandes lignes, quoi, hein, toute sa grande histoire. Mais également, il y a des originalités, comme une interview imaginaire d'Aliénor d'Aquitaine et de Saint-Radegonde.
Saint-Radegonde, tout à fait.
Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Je me suis senti libre dans ce livre, enfin, et une liberté. Et l'éditeur fait confiance, Marc fait confiance à ses auteurs pour donner leur propre regard sur la ville. Et Alain Kellavillégie avait fait Rochefort, voilà, il m'a bien épaulé par rapport à ce projet, et j'avais aussi découvert la collection grâce à Evelyne Dress pour son livre sur le Dauphiné. Voilà.
D'accord. Radegonde, hein, Saint-Radegonde, avec son église aujourd'hui, hein, qui est magnifique à Poitiers, je crois que c'est une des plus belles à mon sens en tout cas.
Oui.
quand j'étais enfant, je faisais un peu comme vous, je crois. J'allais visiter le tombeau.
Oui.
Un endroit magnifique et une certaine sérénité, en fait. Hein, c'est
une grande émotion. Il y a beaucoup d'émotions, mais dans la plupart des églises de Poitiers, on a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel. Vraiment, que ce soit le baptistère Saint-Jean, la cathédrale, le vitrail de la crucifixion, enfin, etc. Et on a la chance d'avoir une ville au patrimoine exceptionnel, vraiment.
On a pas été vraiment exceptionnel, c'est vrai, on a quelques milliers d'années maintenant d'histoire. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette ville, à part son histoire, bien évidemment, mais la population, peut-être le côté étudiant.
Oui, ce que j'aime sur Poitiers aussi, c'est son intimité. C'est assez étonnant, mais moi j'aime partir, marcher, et quand je marche, on découvre toujours une sorte de petits coins intimes, secrets. Je pense à l'impasse Saint-Michel. Vous arrivez au bout de l'impasse Saint-Michel, il y a une illustration en plein jour, en plein air, de Marie Barringer, par exemple. Et puis il y a toutes ces petites ruelles, l'escalier des dunes. Moi j'aime bien Poitiers parce qu'on s'égare. Puis je trouve que Poitiers est un décor, vraiment un décor de cinéma et de roman. Et je désespère pas un jour de poser un de mes romans à Poitiers.
D'accord. Vous avez Poitiers par rapport à ses monuments, Poitiers par rapport à ses cimetières aussi. Hein. Vous avez écrit à l'époque un beau livre sur ces cimetières.
Oui.
Qui ont beaucoup à nous apprendre.
Alors le livre sur le cimetière avait été mené par deux collègues. Là, moi j'avais fait la partie poétique. Alors c'est vrai que j'ai marché également dans les cimetières de Poitiers. On apprend beaucoup à travers les tombes et les personnages, et on apprend beaucoup, effectivement. Le cimetière de Notre-Dame-des-Champs, par exemple, est tout à fait étonnant, un peu secret, un peu enfoui, comme ça, on le découvre. Mais c'est vrai que les cimetières de Poitiers nous apprennent beaucoup de l'histoire de la ville également, oui.
Tout à fait, oui. Plus proche de nous, hein, ici, au niveau de Chauvigny, vous avez fait un livre sur les rossignols. Alors, je serais tenté de dire que les rossignols ont depuis un moment arrêté de chanter. Alors, quand on parle des rossignols, il s'agit du couple rossignol, hein, Madeleine et André Rossignol.
Oui. Ben, j'étais à l'école avec Philippe, donc j'ai fait mon CM2 à Aventon avec Philippe. Et un jour, Philippe m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux m'aider à rédiger un livre ?» Il y a eu plusieurs parutions, hein. Il y a eu l'intégrale des cartes et tout. Moi, j'ai fait un livre à l'époque, oui, avec lui, où j'étais très content, parce que c'est vrai que ces cartes rossignoles nous ont fait rêver. Moi, je sais que aujourd'hui on est abreuvé de d'images et tout ça, mais à l'époque, sur une seule image, on pouvait passer une heure. Et si on avait un enseignant passionnant, eh bien, sur une seule image, il nous faisait rêver, il nous emmenait dans l'histoire et dans l'histoire de l'histoire. C'est vrai que et quand Philippe m'a appelé, j'étais content de revisiter un petit peu ces images qui nous ont fait rêver en tant que gamin, quoi.
Tout à fait, c'est des histoires, enfin des cartes qu'on a retrouvées dans nos écoles quand nous étions enfants, jusque pratiquement dans les milieux des années 80, je pense.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Voilà, où tout le monde l'a en mémoire, hein, ces images pédagogiques qui nous apportaient énormément. Ouais.
Et puis le père Rossignol, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que j'ai joué au football avec lui. Il faut savoir qu'il a arrêté le football très tard. Sa dernière licence était à 67 ans, donc le père Rossignol, j'ai joué au foot avec lui à Aventon, et c'était un sacré personnage. On a eu la chance de le côtoyer et d'échanger, justement. C'était quelqu'un de très riche, de très très engagé, de très tonique. Voilà.
Madeleine et André, donc, qui ont commencé véritablement à allier, je disais, au cœur du triangle d'or historique de la Vienne, entre Chauvigny, Saint-Savin et Anglet-sur-Anglin. C'est un endroit que vous connaissez bien, un peu ce secteur avec,
Je connais bien la Vienne, puisque j'ai fait les deux livres, j'ai fait trois livres pour le département de la Vienne, pour le conseil départemental. J'ai commencé à l'époque René Monory, et j'ai continué ensuite. J'ai fait effectivement les livres du département avec une présentation dans l'un de toutes les communes. Donc j'ai sillonné la Vienne. Je connais la Vienne, c'est avec des lieux magiques, effectivement. Saint-Savin est magique, Anglet-sur-Anglin, mais je pense aussi au Roc d'Enfer de la Thue, où on est complètement dépaysé. Et si vous voulez emmener vos amis en une heure, ils se retrouvent pratiquement dans un esprit de montagne. Le Loup du Nez aussi n'est pas en reste, le Civrésien non plus. Je connais la Vienne, et on a la chance d'avoir un département extrêmement riche en patrimoine et en paysage également.
Tout à fait. À découvrir, vous parliez justement du Roc d'Enfer. On peut conseiller aux personnes qui nous écoutent de faire les Terra Aventura pour les enfants, notamment. C'est très intéressant, des parcours qui nous permettent de découvrir un peu ces endroits, et notamment le Roc d'Enfer. Hein, je l'ai fait moi.
On a la chance dans la Vienne d'avoir de très beaux chemins de randonnée, très belles balades, les forêts, les rivières, on a beaucoup de chance. Moi, c'est une région, je m'en lasse pas. Et on peut se dépayser dans la Vienne très rapidement et très sereinement. Et voilà.
Tout à fait.
Et je pense à Lusignan aussi, parce que je suis très attaché à Lusignan. Lusignan, on a un esprit de féerie, on a un esprit de légende. Quand on se promène à Lusignan, j'ai fait une émission avec la radio belge, ils me disaient, c'est incroyable, tout ce secteur où on a l'impression d'un décor de légende, et on est vraiment plongé dans la légende.
Tout à fait. Lusignan qui est magnifique. Vous avez parlé de la Vienne dans vos livres, énormément de livres, vous êtes à plus d'une trentaine de livres.
Une soixantaine de livres.
Ah bah oui, j'en ai oublié quelques-uns.
Oui.
Donc plus d'une soixantaine de livres que vous présentez en librairie quelquefois. Vous faites des dédicaces sur le secteur ?
Alors je fais des dédicaces, je fais quelques salons aussi, parce qu'on a la chance, on a le Pictavien de Chauvigny, qui organise des salons, qui organise plusieurs salons, et il faut lui rendre hommage parce que c'est un vrai travail pour les auteurs d'organiser puis de rencontrer nos publics, nos lecteurs. Je fais des dédicaces en librairie quand il y a une nouveauté. Voilà, là je suis en préparation plutôt sur du roman. J'espère publier plusieurs romans. Voilà, et puis je viens de terminer un roman, La tendresse du pain noir, qui va être adapté sur scène avec Johan Clément au piano, qui va être adapté sur scène. C'est l'histoire, La tendresse du pain noir, c'est l'histoire de mon grand-père qui était chef de résistance. D'accord. Et de ma grand-mère qui était boulangère. J'ai découvert des choses assez incroyables dans la relation justement entre une boulangerie où était cachée la radio dans le fournil et ma grand-mère qui transmettait les messages. Et j'ai écrit un spectacle histoire et chanson avec des témoignages de faits vrais pour donner vie un petit peu à ce qui s'est passé pendant cette période trouble de 1944.
Tout à fait. Une période trouble méconnue. Hein. On a souvent l'impression que les Français, de ce côté-là, étaient plutôt à l'ombre, on va dire, plutôt que sur le front. Et en réalité, énormément de choses se sont passées. On l'a vu d'ailleurs, nous, du côté de Chauvigny, hein, avec pas mal d'actes de résistance. Hein.
Oui, il y a beaucoup de... Il y a le musée de Tercé aussi.
Oui,
hein.
Tout à fait. Oui.
On va travailler... nous aurons des objets sur scène du musée de Tercé. Nous avons la chance de travailler avec cette association. C'est un spectacle que je veux profond, parce que c'est aussi un témoignage... De par la personnalité de mes grands-parents, c'est un spectacle que je veux humaniste. Il y avait des bons et des mauvais résistants, il y avait des bons et des mauvais Allemands. Je veux dire, les anecdotes que je raconte sont authentiques et je vais essayer de transmettre. Mais bien sûr, le but, moi je suis profondément humaniste, hein, c'est-à-dire que je suis pour l'ouverture et l'accueil de toutes les idées, toutes les religions, mais à condition qu'elles cheminent vers la paix.
Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que le maire de Tercé, on parlait de Tercé, que nous avons reçu il y a quelques semaines ici, hein, pour une émission spéciale sur la ligne de démarcation, une ligne de démarcation qui traversait la Vienne et qui l'a coupée, hein, de part en part. Hein. À ce niveau-là, justement au niveau de la séparation, vous faites des ateliers d'écriture, et j'ai vu que vous en faisiez dans tous les domaines, avec les enfants et avec les prisonniers aussi.
Oui, c'est important. J'ai vécu effectivement avec Philippe Pinault, l'association Dula, qui viennent de sortir un très beau livre d'ailleurs, qui raconte les 40 ans de ce combat, entre guillemets. J'ai eu la chance de pouvoir faire des ateliers d'écriture à la prison de Vivonne. J'avais déjà eu à la Pierre Levée des interventions chantées, j'avais fait des interventions. Mais je vais vous dire, les ateliers d'écriture à Vivonne me marquent beaucoup, parce que c'est incroyable ce que l'on peut vivre en tant qu'homme, et en tant qu'artiste. Mais ce que je veux dire, c'est que ces hommes, justement, sont très engagés. Dans un atelier d'écriture, en prison, ils démarrent au quart de tour, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. C'est impressionnant ce que l'on peut entendre et ce que l'on peut vivre avec ces gens-là. Ces gens qui ont, pour la plupart, une farouche envie de s'en sortir, clairement et profondément. Mais ça a été pour moi des expériences très 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 fortes. Des anecdotes très fortes. J'en ai une que je peux vous raconter très vite, c'est Samia. Samia, accusée d'avoir tué son conjoint. 2 ans et demi de prison d'attente pour découvrir que c'est une légitime défense et que l'homme, elle a été innocentée au bout de 2 ans et demi. Et quand je lui ai lu le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert, elle m'a dit, Michel, c'est formidable ce que vous avez lu, parce que j'ai découvert que j'étais en prison avant d'être en prison. C'est quelque chose qui m'est resté très très fort. Enfin, j'en ai vraiment des... C'était très émouvant. Et cette femme a été innocentée, relâchée, parce que finalement, elle n'avait pas tué son conjoint. Son conjoint s'était empalé sur l'arme dont il se servait pour la menacer.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le colporteur d'histoire. C'est toujours mieux de colporter des rumeurs, je dirais, hein, puisque certains préfèrent colporter les rumeurs sur l'histoire et sur les profs en question. On a vu ce que ça pouvait donner.
Ouais. Ben alors, les rumeurs, je leur règle leur compte souvent dans les spectacles. Dans Petite Rumeur, je règle le compte je tords le cou aux méchancetés, à la mauvaise foi. Les petites rumeurs dans mon spectacle sur Mélusine, ça n'a pas loupé non plus. Bon, c'est vrai que je n'aime pas la mauvaise foi, je n'aime pas la manipulation ni la mauvaise foi. Et le colporteur d'histoire est un magicien. Il, avec Olivier Pacro, mon complice, on a pu transmettre des légendes qu'on a écrites sur tout le Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes. C'était émouvant parce que on parle d'ailleurs dans ce livre des châteaux de Chauvigny.
Les châteaux, les cinq châteaux de Chauvigny,
voilà.
Son église, la magnifique collégiale, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, la collégiale
Saint-Pierre. Oui, bien sûr.
Voilà, un endroit magnifique à visiter. Donc on parlait du colporteur d'histoire, justement par rapport à rumeurs et autres, par rapport à l'histoire, la place de l'histoire au niveau de l'école, qu'est-ce que vous pouvez en penser, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a l'impression aujourd'hui qu'on voudrait parfois déboulonner les statuts, je veux dire, essayer de changer ce qui a pu se passer.
Vous parlez du musée de Tercé, par exemple, ils ont fait, c'est magnifique, ils ont ouvert gratuitement. On parle du devoir de mémoire. Je lisais encore des témoignages sur les camps, sur les derniers survivants, et quand je vois une dame là qui témoigne encore à 99 ans dans les collèges, je pense que le devoir de mémoire est important. On dit toujours plus jamais ça, mais c'est important de le rappeler. On voit la violence. Je trouve par contre qu'il y a beaucoup trop de violences qui sont montrées dans les médias. C'est mon sentiment personnel. On a l'impression qu'on a besoin d'abreuver les gens avec ça, alors que bon sang de bois, il y a des milliers de gens qui font des choses passionnantes et dont on ne parle pas. Et je pense qu'on devrait mettre davantage de positif dans les médias et de montrer les gens qui œuvrent. Parce qu'il y a des gens qui œuvrent, et dans tous les domaines, on va accentuer sur un problème un problème grave, mais je veux dire, dans toutes les corporations, il y a des gens magnifiques. Il y a des gens magnifiques, on devrait mettre la lumière sur ces gens-là.
Tout à fait. Et on le voit d'ailleurs avec les chaînes info, hein, qui n'ont pas forcément apporté que des bonnes choses, puisqu'elles sont au fait de l'actualité en permanence,
oui.
Et recherchent le sensationnel. Hein.
Mais je suis profondément pour la valorisation. Dans un atelier de théâtre, si un enfant se trompe, je dis génial. On va pouvoir travailler à partir de ça. Je suis dans une valorisation permanente, parce que je pense que c'est ça qui fait avancer les choses. C'est la valorisation, c'est l'écoute, et la dernière chose qui me tient à cœur, c'est l'humilité. C'est-à-dire que je m'étais dit, un jour, à 14 ans, j'avais dit, j'aimerais un jour avoir un peu de pouvoir pour ne pas avoir à m'en servir. Je pense profondément ça. Le pouvoir, c'est pas écraser l'autre. Le pouvoir, c'est aider. Si on est politique, on se met au service. Si on est acteur, on remercie la salle, on remercie le gars qui a balayé la salle pour la préparer, on remercie le public d'avoir eu cette écoute qui nous a aidés. Tout ça, c'est important. Et je crois que l'humilité est une clé de force et une clé de voûte pour avancer vraiment en sérénité, mais surtout pour grandir. Je veux dire, les erreurs, la guerre, elle existait, c'est terrible ce qui se passe en ce moment, mais je veux dire, on devrait continuer à encourager la paix, et je pense aussi être vraiment dans cette énergie de partage.
On l'a vu, vous avez fait énormément de projets un peu partout en France. L'actualité du moment et l'actualité pour les mois à venir, c'est quoi pour Michel Cordebeuf?
Alors l'actualité, je voulais parler un tout petit peu de mon rôle de journaliste littéraire sur RCF. J'anime le magazine littéraire, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Petite Rumeur va s'élancer sur les routes. Je souhaite jouer dans les communes, vraiment dans les milieux ruraux, dans les petites salles. Ça me plaît beaucoup. Et puis, La Tendresse du Pain Noir va voir le jour en mois de mai. Ça coïncide avec l'anniversaire, les 80 ans de 1944. Mais c'est un spectacle sur lequel je tiens, et notamment une chanson qui dit quelque chose de très important sur justement le sens de la guerre. C'est une femme qui regarde la photo de son enfant, et la chanson, c'est elle regarde la photo de son fils parti combattre d'autres fils. Pour montrer l'absurdité totale de la guerre, comment on peut détruire ce qui est essentiel dans la vie, c'est l'amour, hein, et comment les guerres sont dévastatrices. J'espère humblement, il faut rester humble, mais passer des messages. Justement, on m'a demandé hier est-ce que je pourrais présenter La Tendresse du Pain Noir aux collégiens et aux lycéens pour avoir un échange à la fin. Et j'adore, à la fin d'un spectacle, je m'assois sur la scène et j'échange avec les jeunes.
C'est un échange qui serait à quel endroit, ça, sur dans un théâtre, je suppose.
Oui, ben on est en train de construire la tournée. Mais dans tous les spectacles, quand j'adore échanger à la fin et écouter. Parce qu'on apprend beaucoup, justement, d'un ressenti. Quelqu'un qui s'assoit pendant une heure et demie, qui reçoit un spectacle, c'est important d'écouter ce qu'il a à nous dire.
Oui, tout à fait, puisqu'il est venu justement pour quelque chose, il est venu pour des émotions, pour les entendre, et puis peut-être les faire ressentir les siennes. Quoi.
Et puis, bon, mon projet très important, c'est mon CD mes 20 plus belles chansons, avec des invités que j'aime, parce que des musiciens, il y aura des musiciens multiples et variés que je veux inviter pour cet album.
Alors, on peut retrouver votre actualité hein, sur votre site internet, michelcordebeuf.fr. Vous êtes aussi sur Facebook. Hein,
oui.
Instagram, peut-être pas.
Si, ça y est. Je m'y suis mis.
C'est bien, vous êtes mieux que moi, vous voyez. Moi, je ne suis pas encore, c'est assez compliqué.
Je m'y suis mis, non, mais c'est intéressant, on a des échanges. Il y a des échanges. Bon, c'est vrai que moi, ce qui compte beaucoup, c'est le terrain. J'aime beaucoup cheminer, j'aime beaucoup rencontrer, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup apprendre. Ça a toujours été quelque chose chez moi, et puis voilà, c'est important.
Écoutez, on parlait tout à l'heure de randonnée, de cheminement justement, de randonnée aujourd'hui, enfin demain par contre, sur la Vienne. On a deux randonnées qui sont prévues. La première, c'est à Vouillé, à Traversonne en fait, hein, pour le 11 février, c'est la Galopade des Amoureux. On arrive bientôt à la Saint-Valentin.
Et oui.
Pas, voilà. Et puis la deuxième, c'est à Bonne, autour du château de Touffou, avec une randonnée magnifique, hein, qui est organisée. On a deux circuits de 8 et 15 kilomètres, un départ entre 9h et 10h. Voilà. Écoutez, je vous remercie, Michel Cordebeuf, d'être venu pour cette émission. Je vous laisse à vos projets. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux même. Et puis j'espère pouvoir vous croiser un de ces jours, sur RCF, soit...
Ben, les projets, c'est aussi l'édition de romans, mais on en reparlera dans une prochaine émission. Mais je suis ravi et merci, Francis, pour cette invitation. C'est intéressant, une émission de radio. Moi qui ai l'habitude d'interviewer, mais quand on est interviewé, ça permet de faire un point.
Exactement.
Et de se poser. Et ça fait beaucoup de bien. Je vous en remercie.
Ah bah écoutez, je suis très heureux de ce côté-là. C'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça, plutôt que d'avoir une petite émission qui dure 5 minutes, une interview de 5 minutes,
ouais.
Où au final, on n'a pas appris grand-chose de l'invité. Là, on est heureux de vous avoir rencontré, et puis d'avoir approché un peu plus près l'artiste et l'écrivain, en fait.
Voilà. Merci beaucoup.
Je vous remercie et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour ce qui me concerne, toujours sur les chemins de traverse. Merci, bonne semaine à toutes et tous, au revoir.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.